Véroa Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir, bienvenue dans cette édition du jeudi 4 février 2021. Abdourahmane Dia, la présentation, voici les titres. Human Rights Watch accuse l'armée camerounaise d'avoir tué 9 civils en zone anglophone le mois dernier. L'armée rejette ces accusations. Dominique Ongwen, l'enfant soldat devenu commandant dans l'armée de résistance du Seigneur, condamné pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité par la CPI. Pandémie de Covid-19 dans le monde, la Croix-Rouge lance un programme pour aider les pays pauvres dans leur campagne de vaccination. Ici aux États-Unis, le chef du Pentagone lance le débat sur l'extrémisme au sein de l'armée américaine. Également, dans cette édition du Monde aujourd'hui, l'économie et les sports. Mais tout d'abord, le journal. L'armée camerounaise de nouveau montrée du doigt, l'organisation internationale Human Rights Watch l'accuse d'avoir tué au moins 9 civils dans une des zones anglophones du Cameroun en proie à un sanglant conflit séparatiste. De leur côté, les militaires affirment que l'ONG a dénaturé les faits. Le point avec Jacques Aristide.
D'après Human Rights Watch, une cinquantaine de soldats arrivés à pied dans le village de Maoutou le 10 janvier dernier ont tiré sans discernement alors que les gens prenaient la fuite. Parmi les victimes, une femme de 50 ans et une fille de 6 ans, précise HRW, en citant de nombreux témoins des ONG locales. Elle accuse les militaires d'avoir également pillé des dizaines de foyers. Le jour du drame, des vidéos et photos montraient une femme et une enfant manifestement tuées par balles et plusieurs hommes gisantes seuls. L'ONG conclut que les vidéos ont bien été tournées dans les heures suivant l'attaque. Dès le 11 janvier, l'armée avait assuré que des militaires avaient mené un raid préventif sur les positions de groupes terroristes à Maoutou, lesquels avaient immédiatement ouvert le feu sur eux. Dans la riposte, dit-elle, quelques terroristes ont été neutralisés dans le strict respect des règles d'engagement. L'armée avait cependant annoncé une enquête minutieuse. Ses résultats n'ont pas été rendus publics à ce jour. Le colonel Cyril Serge Atonfak Gwemo, porte-parole de l'armée camerounaise, affirme ce jeudi que le rapport de HRW est un récit partisan, un fatras habituel de morceaux choisis de faits dénaturés, dit-il.
En République démocratique du Congo, les sénateurs du camp de l'ancien président Joseph Kabila ont dénoncé ce jeudi ce qu'ils appellent des dérives dictatoriales. Ils ont appelé le président Tshisekedi à y mettre fin en pleine crise au sein des institutions. Le secrétaire général du Sénat a procédé aujourd'hui à l'installation d'un bureau provisoire avec pour mission de faire examiner la motion de censure contre le président pro-Kabila du Sénat, Alexis Tambwe Mwemba. Cet acte est le coup de grâce asséné aux institutions de la République après la mise au pas de la Cour constitutionnelle, le renversement du bureau de l'Assemblée nationale et la déchéance du Premier ministre, a déclaré à la presse Tshikeze Djemu, porte-parole des sénateurs du Front commun pour le Congo de Joseph Kabila. Nous y reviendrons en partie magazine. La Cour pénale internationale a jugé ce jeudi Dominique Ongwen coupable de crimes de guerre et crimes contre l'humanité en Ouganda. Cet ancien enfant soldat était devenu commandant du groupe rebelle ougandais, l'armée de résistance du Seigneur. Plus de détails avec Nani Talani.
Dominique Ongwen, 45 ans, a été reconnu coupable de 71 chefs d'accusation, dont meurtre, viol, esclavage sexuel, conscription d'enfants et grossesse forcée, une accusation qui n'avait jamais été prononcée par la CPI jusqu'à présent. Surnommé la fourmi blanche, Ongwen était jugé pour son implication dans une série de massacres perpétrés dans les années 2000 par l'armée de résistance du Seigneur qui a mené une guerre brutale en Ouganda, en RDC, en Centrafrique et au Soudan afin d'établir un État basé sur les 10 commandements de la Bible. Selon l'ONU, la LRA a massacré plus de 100 000 personnes et enlevé 60 000 enfants lors de violences. Dominique Ongwen a nié ces accusations au nom de Dieu. Ses avocats avaient plaidé l'acquittement, soulignant que dès son plus jeune âge, l'accusé avait été victime de la brutalité de la LRA qu'il avait enlevé alors qu'il se rendait à l'école. Sa culpabilité a été établie au-delà de tout doute raisonnable, a réagi le tribunal. Il s'est dit conscient que M. Ongwen a beaucoup souffert, mais qu'il était jugé pour des crimes commis en tant qu'adulte responsable et commandant de la LRA. La Cour doit prononcer la peine de M. Ongwen à une date ultérieure. Il encourt la perpétuité.
Plus de 120 migrants ont été secourus au large de la Libye. L'ONG SOS Méditerranée a indiqué sur Twitter que 19 femmes et 2 enfants en bas âge figurent parmi les rescapés. Les candidats à l'exil venus de divers pays partent pour l'essentiel de Tunisie et de Libye pour rejoindre l'Europe via l'Italie. Au total, plus de 1200 migrants ont péri en 2020 en Méditerranée, selon l'Organisation internationale pour les migrations. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken fait part au premier ministre éthiopien de sa grande préoccupation concernant le conflit au Tigré. Dans un entretien téléphonique, le chef de la diplomatie américaine a demandé un accès humanitaire immédiat, complet et sans entrave pour éviter de nouvelles pertes en vies humaines. Le secrétaire d'État a également réaffirmé l'attachement des États-Unis au programme de réforme de l'Éthiopie et son soutien aux prochaines élections nationales éthiopiennes.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain Joe Biden va annoncer le gel du retrait partiel des troupes américaines d'Allemagne engagé par son prédécesseur Donald Trump. C'est ce qu'a indiqué ce jeudi son conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan. Annonce faite en prélude au discours de Joe Biden au département d'État sur la politique étrangère. Par ailleurs, les rebelles houthis du Yémen ont salué ce soir la décision du président Joe Biden de cesser le soutien américain à l'opération militaire les visant, y voyant le début de la fin de la guerre au Yémen. Le chef du Pentagone a lancé un débat au sein des forces armées américaines sur l'extrémisme dans les rangs après la participation de plusieurs militaires et ex-militaires à l'assaut du 6 janvier contre le Congrès. Le point avec Nathalie Barche.
Le ministre de la Défense, Lloyd Austin, a donné à toutes les unités 60 jours pour tenir une journée de discussion sur l'extrémisme. L'objectif est d'informer les soldats des dangers de l'extrémisme et de la désinformation. Les précédentes administrations ont ignoré pendant plus de 10 ans des rapports du FBI et du ministère de la Sécurité intérieure sur l'infiltration des forces de l'ordre et de l'armée par les suprémacistes blancs. 12 réservistes de la garde nationale avaient été écartés du dispositif de sécurité de la cérémonie d'investiture de Joe Biden le 20 janvier dans le cadre d'une procédure de recherche d'éventuels liens avec des groupes extrémistes. Le président américain a rendu un dernier hommage mardi à Brian Sicknick, le policier mort dans l'assaut du Congrès par des partisans de l'ex-président Donald Trump. Sa dépouille a été exposée au Capitole.
Faisons à présent le point sur la pandémie de COVID-19 dans le monde. L'université Johns Hopkins fait état de près de 105 millions de cas confirmés pour 2 millions et 270 000 décès depuis la découverte du virus. Les dernières évolutions sur la pandémie avec Mohamedou Oumfa.
Les États-Unis sont toujours le pays le plus endeuillé par la maladie avec plus de 450 000 décès devant le Brésil, le Mexique, l'Inde et le Royaume-Uni. L'Allemagne envisage un assouplissement des mesures anti-Covid. Nous ne pouvons rester dans ce confinement dur tout l'hiver. Notre société ne le supporterait pas bien, a déclaré le ministre allemand de la Santé, qui note une tendance significative à la baisse concernant les nouvelles infections. Le Brésil compte boucler vendredi l'achat de 30 millions de doses des vaccins russes Sputnik V et indien Covaxin. La Corée du Nord a fait une demande pour recevoir près de 2 millions de doses alors que ce pays affirme être exempt du virus. La Croix-Rouge a lancé un plan doté de 92,5 millions d'euros pour aider les pays pauvres à mettre en place des programmes de vaccination parce que selon elle, près de 70% des doses de vaccins administrées jusqu'à présent l'ont été dans les 50 pays les plus riches de la planète. Enfin, le chef des experts de l'OMS qui enquête en Chine sur l'origine de la pandémie écarte pour le moment la thèse d'une fuite de laboratoire. Son équipe s'est rendue mercredi à l'Institut de virologie de Wuhan, parfois accusé d'avoir laissé échapper le virus d'un de ses laboratoires.
Un diplomate iranien a été condamné ce jeudi en Belgique à la peine maximum de 20 ans de prison pour avoir projeté un attentat contre un rassemblement d'opposants au régime de Téhéran en France. Le projet a été déjoué in extremis par la justice antiterroriste belge il y a près de 3 ans. Le jugement a été applaudi par les militants du Conseil national de la résistance iranienne qui avaient rallié le tribunal d'Anvers où a été jugée l'affaire. Le diplomate Assadollah Assadi, 49 ans, considéré comme le coordinateur de l'opération, a nié les faits. Il était absent à l'énoncé du jugement. L'Iran a fermement dénoncé la condamnation de son diplomate. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, c'est dans la Minute Éco, présentée ce soir par Nani Talani.
La justice nigériane a approuvé un mandat d'arrêt de la Commission sur les crimes économiques et financiers contre Richard Leng, le PDG d'Exxon Nigeria. La commission enquête sur les allégations de fraude à la passation des marchés dans le cadre du projet majeur d'Exxon visant à moderniser les installations offshore et onshore. L'enjeu est la création frauduleuse d'ordres de modification contractuelle de plus de 213 millions de dollars. Le contrat implique Exxon et 4 autres sociétés pétrolières. Le pétrole représente environ 90% des recettes en devise et la moitié des recettes publiques du Nigeria. En Afrique du Sud, les douaniers ont saisi 18 morceaux de corne de rhinocéros évalués à 3,5 millions de dollars lors d'une inspection de routine à l'aéroport international de Johannesburg. Ils étaient déguisés en accessoires d'impression et présentés comme des cartouches d'imprimantes destinées à la Malaisie. Aucune arrestation n'a été effectuée car le colis a été envoyé par courrier. Pour terminer, ici aux États-Unis, les inscriptions hebdomadaires au chômage et le nombre total de bénéficiaires ont reculé sur une semaine, selon les données du département du travail publiées ce jeudi.
À présent, la page des sports avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir.
Bonsoir à tous. La finale de la 6e édition du championnat d'Afrique des Nations opposera le tenant du titre, le Maroc et le Mali. Les Lions de l'Atlas se sont imposés face au pays hôte, le Cameroun, 4-0 à Limbé. Bien avant, le Mali s'est qualifié le premier pour la finale après sa victoire au tir au but 5-4. 0-0 à l'issue de la prolongation contre la Guinée à Douala. Les Aigles et les Lions de l'Atlas s'affronteront en finale dimanche à 19h temps universel à Yaoundé. Le Cameroun et la Guinée se rencontreront pour la 3e place le 6 février à Douala. Ce match se disputera sans le joueur Yannick Ndjeng. Il a été exclu de l'équipe pour indiscipline caractérisée à l'issue de la demi-finale et a quitté le groupe ce matin sur la demande de l'entraîneur Martin Tungum Pile. Mécontent de son remplacement à la 55e minute, Yannick Ndjeng a eu une altercation avec le coach adjoint des Lions Indomptables sur le banc de touche, d'où son exclusion. Début ce jeudi du mondial des clubs à Doha au Qatar, les Égyptiens d'Al Ahly, vainqueurs de la Ligue africaine des champions, représentent le continent. Ils jouent aujourd'hui leur premier match contre le champion du Qatar Al Duhail. Le stade de 40 000 places où se déroulera la rencontre ne sera utilisé qu'à 30% de sa capacité et les spectateurs devront respecter les règles de distanciation physique et porter un masque. Les demi-finales sont programmées dimanche et lundi avec respectivement en favoris les Brésiliens de Palmeiras qui viennent de remporter samedi la Copa Libertadores et le Bayern Munich. Le président du comité d'organisation des Jeux Olympiques de Tokyo, Yoshiro Mori, s'est excusé pour des propos sexistes qu'il a tenus hier, mais a écarté l'idée de démissionner malgré un flot de critiques au Japon. Hier, en effet, M. Mori, 83 ans, s'est plaint que les conseils d'administration avec beaucoup de femmes prennent beaucoup de temps car elles ont, selon lui, du mal à finir leurs interventions. Ces déclarations allaient à l'encontre de l'esprit des Jeux Olympiques et Paralympiques et étaient par conséquent inappropriées, a déclaré Yoshiro Mori, ajoutant « Je n'ai pas l'intention de démissionner », rappelant son sacrifice personnel pendant 7 ans au service de l'organisation des JO 2020, reportée d'un an à cet été et qui auront lieu du 23 juillet au 8 août prochain à cause de la pandémie du coronavirus. Ici, en NBA, Paul George, auteur de 36 points, a su rebondir pour éviter aux Clippers une deuxième défaite de rang au détriment des Cleveland Cavaliers battus 121-99. Gianni Antetokounmpo a encore une fois été impérial en réalisant un triple-double avec 21 points, 14 rebonds et 10 passes décisives avec Milwaukee, vainqueur face à Indiana, 130-110. Philadelphia a conforté sa première place à l'Est en l'emportant à Charlotte, 118-111, avec comme meilleur réalisateur du côté côté des Sixers, le Camerounais Joel Embiid, 34 points. Dans les autres matchs, Dallas a brisé une spirale négative de 6 défaites de rang pour l'emporter à Atlanta 122 à 116 contre les Hawks. À la Nouvelle-Orléans, les Pelicans se sont imposés face aux Phoenix Suns 123 à 101. Et enfin, Oklahoma City a dominé à domicile les Houston Rockets 104 à 87.
Merci, Yacouba. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Abdourahmane Dia toujours en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour. En République démocratique du Congo, le bureau du Sénat, conduit par des partisans de l'ex-président Joseph Kabila, est à son tour en passe d'être déboulonné par la nouvelle coalition naissante autour du président Félix Tshisekedi. Un bureau d'âge vient d'être mis en place pour examiner des pétitions contre les membres du bureau et éventuellement les déchoir. Eddy Issongo a joint à Kinshasa un membre de la cellule de crise du Front commun pour le Congo de Joseph Kabila, Marie-Ange Mouchebekwa.
C'est simplement la désolation. C'est la même procédure qui a été suivie à l'Assemblée nationale en violation du règlement intérieur. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous constatons. Voilà.
N'avez-vous pas vu venir le fait qui s'est passé au Sénat après la déchéance du bureau de l'Assemblée nationale et même du gouvernement? N'avez-vous pas pris des précautions pour cela?
Quelles que soient les précautions qu'on aurait prises, ce qui est arrivé devait arriver. Nous ne pouvions rien empêcher, à part défendre les textes légaux en vigueur en République démocratique du Congo. Nous l'avons fait, mais malgré tout, ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale s'est passé. On a investi un nouveau bureau par le forcing, on a écarté tous les rivaux de la course et cela se répète au Sénat.
Et d'après vous, les règles ont-elles été violées?
Oui, c'est une évidence, on n'a pas besoin d'un dessin pour constater que le règlement intérieur de l'Assemblée nationale a été violé, celui du Sénat également, mais également la Constitution a été violée constamment et intentionnellement. L'autre camp s'impose par la force, mais nous continuons à défendre la légalité.
Vous êtes donc réduit à l'opposition, mais comment allez-vous mener ces rôles d'opposition?
De manière républicaine, c'est-à-dire dénoncer ce qui ne fonctionne pas bien et proposer des pistes de sortie, proposer des solutions, mais en même temps, nous n'allons pas renoncer à la défense de la Constitution ainsi que des lois de la République démocratique du Congo. Je voudrais également rappeler que nous ne sommes qu'une opposition de fait parce que nous sommes la majorité de droit. Il est important de le souligner. On nous a contraints à l'opposition, mais au regard de la loi, c'est nous qui représentons la majorité parce que dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, il est clairement stipulé que les députés font la déclaration de leur appartenance dès le début de la législature. Cela avait été fait au premier trimestre 2019. Nous sommes au regret de constater que nos adversaires ont imposé une autre identification à laquelle le FCC a refusé de se soumettre.
On a vu plutôt un bon nombre de gens qui étaient avec le FCC se déclarer ouvertement désormais de l'Union sacrée, donc de la nouvelle majorité.
C'est leur choix.
Vous faites partie du comité des crises mis sur pied après une série des débâcles du FCC, d'abord à l'élection présidentielle et ensuite avec ces renversements de la majorité. Certains d'entre vous même ont décrié et ont demandé les renouvellements du leadership. Où en êtes-vous présentement et qu'est-ce que vous allez faire concrètement? Dans quelle voie vous allez partir?
La série de crises mise en place par l'ancien président Joseph Kabila, leader du FCC, a mené des démarches pour entendre les uns les autres, écouter les critiques et les desiderata des uns les autres. Nous avons soumis le rapport au leader du FCC, l'ancien président Joseph Kabila. C'est à lui qu'il appartient de prendre la dernière décision de structurer le FCC et de désigner les prochains animateurs de notre plateforme politique.
C'était Marie-Ange Mouchebekwa, membre de la cellule de crise du Front commun pour le Congo.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Goma, c'est sur 96.2 FM en République démocratique du Congo.
Le cancer est l'une des maladies non transmissibles qui tue en silence au Togo. À l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le cancer, notre correspondante à Lomé nous donne un aperçu de cette maladie dans le pays.
Au Togo, seuls 34% des personnes atteintes du cancer en 2020 y ont survécu. C'est ce que rapporte la Ligue togolaise contre le cancer qui cite l'Observatoire mondial du cancer, Globocan. Stéphane Domefa Awiti, président de la Ligue togolaise contre le cancer.
En ce qui concerne le Togo, le Globocan de 2020 donne une estimation de 5208 cas diagnostiqués du cancer au Togo, avec comme décès pour la même période de 3468. En termes de pourcentage, 66,59%. Disons environ 70% des personnes qui souffrent du cancer décèdent. Alors, le traitement est réservé aux gens bien nantis.
En plus de la cherté du traitement qui est commun à tous les pays, au Togo, la prise en charge demeure compliquée à cause de certaines difficultés que relève Zena Boumoumouni, présidente de l'association Femmes sans cancer.
Il y a la disponibilité réduite des appareils. Par exemple, une femme qui a Dapaon qui veut faire la mammographie, elle doit aller à Kara. Il y a certaines analyses, par exemple le CA15-3 qui est lié au cancer du sein, où il faut venir jusqu'à Lomé. Et il y a des femmes qui ont fait la biopsie, on a envoyé, mais les résultats sont perdus. Donc il y a cette fiabilité aussi qui manque au niveau des laboratoires. Il y a aussi le problème de scanner, ce n'est pas disponible partout. Une autre difficulté, c'est l'incompétence locale en oncologie. Au Togo, nous n'avons qu'une seule oncologue médicalement parlant et un seul oncologue chirurgien.
Détectée atteinte du cancer du col de l'utérus à un stade 2B, après 2 ans de saignement, Kafui Adjodi est allé sur des soins assez lourds à Accra, au Ghana voisin, pendant 3 mois avec un coût de traitement avoisinant les 5 millions de francs CFA, soit 10 000 dollars. Même si aujourd'hui elle a survécu à son mal, Kafui Adjodi n'est plus la même personne, confie-t-elle à VOA Afrique.
J'ai opté pour la radiochimiothérapie concomitante avec la curithérapie pour clôturer. Une fois qu'on a fait des traitements avec des médicaments aussi agressifs, on a des séquelles qui restent. Pour la vie, en fait, il y a beaucoup de choses que j'ai perdues.
Il est nécessaire de briser le mythe qui entoure le cancer.
Briser le silence sur le cancer, parce qu'il y a un double silence.
Zenab Moumouni, présidente de l'association Femmes sans cancer.
D'abord, les signes et symptômes de la maladie qui sont silencieux. Et la femme elle-même qui découvre le signe et qui est silencieuse, qui ne va pas vers les structures médicales. Donc, brisons le silence et d'inciter les femmes à un dépistage précoce. Et enfin, lever les mythes et préjugés qui entourent le cancer.
Kailosson, Lomé, VOA Afrique.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La fin dramatique de la présidence de Donald Trump et son prochain procès en destitution ont fracturé le parti républicain. Comme le rapporte Elizabeth Lee de la VOA, tous ceux qui ont voté pour Trump ne se considèrent pas nécessairement comme républicains et tous les républicains ne soutiennent pas forcément Donald Trump. Ce reportage est relaté par Jacques Aristide.
Avec un nouveau locataire à la Maison-Blanche, les républicains prennent un temps de réflexion après l'ère Trump. Chris Morris travaille dans le domaine de la construction en Virginie.
Je pense que ce qui s'est passé au Capitole est inexcusable.
Des manifestants avaient pris d'assaut le Capitole à Washington le 6 janvier dernier. Chris Morris, américain d'origine jamaïcaine, a voté pour Donald Trump.
Je pense que la plupart de ces individus qui étaient là-bas l'ont fait principalement pour Trump, pour le soutenir, et il a rendu notre pays plus divisé.
Les démocrates accusent Trump d'avoir encouragé l'émeute du Capitole avec ses affirmations sans preuve d'une élection volée, la réplique de Trump, alors président.
This was a fraudulent election.
C'était une élection frauduleuse, mais nous ne pouvons pas faire le jeu de ces gens. Nous devons avoir la paix.
Le républicain Aaron Sewell, un enseignant qui habite dans l'État de l'Iowa, n'a pas voté pour Trump. Il montre du doigt les partisans de l'ancien président pour l'attaque du Capitole.
Leur frustration a débordé et c'est comme cette erreur que vous commettez quand vous êtes en colère parce que vous n'y avez pas consacré un peu de temps.
Deborah Tilge, une partisane de Trump, dirige une ferme dans l'État de Washington.
Je pense vraiment que c'était plus sinistre que ça. Je pense qu'ils l'ont fait pour lui donner une mauvaise image.
Je crois que cela a été planifié par les démocrates.
Marilyn Clark, une retraitée de l'Iowa, ne pense pas que les manifestants étaient de vrais partisans de Trump.
Je pense qu'il y aurait pu y avoir des extrémistes là-bas.
Nous vivons une division profonde.
Christina Morcom, qui est dans les ventes informatiques au Texas, voit des parallèles entre la protestation au Capitole et les manifestations de Black Lives Matter, où certaines personnes ont profité de la situation pour semer le chaos.
Tous ces gens sont-ils des partisans de Trump ou sont-ils déguisés en partisans de Trump pour donner une mauvaise image des républicains? Je pense que tout est possible en raison du monde dans lequel nous vivons actuellement.
Le parti républicain est de plus en plus divisé. Le consultant politique Matthew Wiltshire est un républicain qui n'a pas voté pour Trump.
Le parti républicain est en quelque sorte au cœur de ce que j'appelle une guerre civile intra-parti entre des conservateurs plus traditionnels et les trumpistes plus modernes, les populistes.
Mais ils sont tous d'avis que les sénateurs ne devraient pas voter pour condamner Trump. Chris Morris explique pourquoi.
Voter pour la destitution va encore diviser notre pays.
Je pense que c'était un gaspillage de l'argent des contribuables.
Nancy Sheets et son époux croient qu'il est temps pour les élus de passer à autre chose et se remettre au travail.
C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À la mise en onde de Lionel Gaïma, Michel Joseph, Georges-Léonard Sagnon et Josèle Morissin. À la présentation, Abdelrahman Dia. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Au revoir.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
Les États-Unis restent à l'Organisation mondiale de la santé. Peu de temps après avoir prêté serment, le président Joe Biden a signé une lettre rétractant la décision de l'ancien président Donald Trump de se retirer de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. La vice-présidente Kamala Harris a discuté par téléphone avec le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, le docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus, de la décision des États-Unis d'annuler le retrait de l'OMS, d'honorer leurs obligations financières et de travailler en tant que partenaire constructif pour renforcer l'OMS et y mener des réformes. La vice-présidente Harris a souligné que le président Biden et elle pensent que l'OMS est vitale pour contrôler le COVID-19, renforcer la santé dans le monde et la préparation aux pandémies. Le docteur Anthony Fauci a été nommé nouveau chef de la délégation des États-Unis à la 148e réunion du Conseil exécutif de l'OMS. Lors de la locution prononcée à la réunion du Conseil, le docteur Fauci a déclaré « Je me joins à mes collègues pour remercier l'Organisation mondiale de la santé pour son rôle dans la direction de la réponse de santé publique mondiale à cette pandémie. L'administration Biden a également l'intention de s'engager pleinement dans la promotion de la santé mondiale en soutenant la sécurité sanitaire et les programmes de sécurité sanitaire mondiale et en construisant un avenir plus sain pour tous. » a-t-il déclaré. Le docteur Fauci a annoncé le projet de l'administration Biden de rejoindre le COVAX et de soutenir l'accélérateur d'accès aux outils COVID-19 pour faire avancer les efforts multilatéraux de développement et de distribution du vaccin COVID-19, des traitements et des diagnostics dans le monde. L'objectif du COVAX est d'accélérer le développement et la fabrication des vaccins COVID-19 et de garantir un accès juste et équitable pour tous les pays du monde. C'est une bonne journée pour l'OMS et une bonne journée pour la santé mondiale, l'a déclaré le directeur général de l'OMS, Ghebreyesus, ajoutant dans un tweet « L'OMS est une famille des nations et nous sommes tous heureux que les États-Unis restent dans la famille. »
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.